Dehors, deux litières attelées attendaient.
« Voyez donc !» s'écria Madame de Bouville. « On vient l'acquérir en litière comme une princesse, et cela crie et vous cause mille embarras !»
Environné par la nuit, cahoté au trot des mules, pendant plus d'une heure, dans une boîte de bois et de tapisserie aux rideaux battants par lesquels s'engouffrait le froid de novembre, Marie rendait grâce à ses frères de l'avoir obligée à prendre sa grande chape en partant de Crécy. Avait-elle assez souffert alors de la chaleur sous cette lourde étoffe en arrivant à Paris ? « Je ne quitterai donc nul lieu sans malheur et sans larmes, se disait-elle. Ai-je mérité qu'on s'acharne ainsi sur moi ?» Le nourrisson dormait, enveloppé dans les gros plis de la chape. À sentir cette petite vie, inconsciente et tranquille, nichée au creux de sa poitrine, Marie lentement retrouvait sa raison. Elle allait voir la reine Clémence. Elle lui parlerait de Guccio. Elle lui montrerait le reliquaire. La reine était jeune. Elle était belle et pitoyable aux infortunes.
« La reine, c'est l'enfant de la reine que je vais nourrir, »
pensait Marie, se représentant enfin tout l'étrange et l'inespéré de cette aventure que l'autorité agressive de Madame de Bouville ne lui avait montré que sous un aspect odieux. Le grincement d'un pont-levis qu'on abaissait, le pas alourdi des chevaux sur le bois des madriers, puis le claquement de leurs fers sur le pavé d'une cour, Marie fut invitée à descendre, passa entre des soldats en armes, suivit un couloir de pierre mal éclairé, vit apparaître un gros homme en cotte de maille qu'elle reconnut pour le comte de Bouville. Autour de Marie, on chuchotait. Elle entendit le mot de fièvre plusieurs fois prononcé. On lui fit signe de marcher sur la pointe des pieds. Une tenture fut soulevée. En dépit de la maladie, les usages dans la chambre de Gésine avaient été respectés. Mais comme la saison des fleurs était passée, on n'avait pu répandre sur le sol qu'un tardif feuillage jauni qui commençait déjà à pourrir sous les piétinements. Autour du lit, des sièges étaient disposés pour des visiteurs qui ne viendraient pas. Une ventrière se tenait là, froissant dans ses doigts des herbes aromatiques. Dans la cheminée, sur des trépieds de fer, bouillaient des décoctions grisâtres. Du berceau placé dans un angle ne venait aucun bruit. La reine Clémence gisait étendue sur le dos, les cuisses relevées par la douleur et bosselant les draps. Les pommettes étaient rouges, les yeux brillants. Marie remarqua surtout l'immense chevelu d'or éparse sur les coussins et ce regard ardent qui ne semblait pas voir ce qu'il contemplait.
« J'ai soif, j'ai grand soif, » gémissait la reine.
La ventrière chuchota à Madame de Bouville.
Elle a frissonné une grandeur, les dents lui claquaient et ses lèvres étaient violettes comme au visage des morts. Nous avons cru qu'elle passait. Nous l'avons bien frictionnée par tout le corps. Alors sa peau s'est mise à bouillir, comme vous le voyez. Elle a sué si fort qu'il faudrait lui changer ses linceuls. Mais on ne trouve point les clés de la chambre aux draps que tenait Eudeline.
« Je vais vous les donner, » répondit Madame de Bouville.
Elle conduisit Marie dans une chambre voisine, où un feu brûlait également.
« Vous vous installerez ici, » dit-elle.
On apporta le berceau royal. Parmi tous les linges qui l'entouraient, le roi était à peine visible. Il avait un nez minuscule, des paupières épaisses et closes, et somnolait chétif dans une immobilité molle. On devait s'approcher de très près pour s'assurer qu'il respirait. De temps en temps, une infime grimace, une contraction douloureuse donnait quelque relief à ses traits. Devant ce petit être dont le père était mort, dont la mère allait peut-être mourir, et qui donnait si peu de marques de vie, Marie de Crécy fut saisie d'une intense pitié.
« Je le sauverai, je le ferai grand et fort, » pensa-t-elle.
Comme il n'y avait qu'un seul berceau, elle coucha son propre enfant aux côtés du roi.